Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Une forme de chauve-souris très aplatie, translucide, les oreilles en pavillon, une triple aile, quatre pattes en dessous. À l'image du son, le furtif ne connaît pas d'état arrêté. L'imprévu est sa nature. Tous deux, furtif et son, relèvent de la transformation perpétuelle, impossible à bloquer, impossible à fixer. Cette vitalité fait peur, bien sûr. Elle suscite l'appréhension, parce que le furtif reste incontrôlable. Quand nous l'identifions l'espace d'un instant, il est déjà autre. France, 2040. Dans les villes privatisées jusqu'à la nausée, des citoyens continuellement filmés, épiés, notés, bien dociles, voient leur maigre capacité de révolte endormie par le doux nuage du techno-cocon, cette zone de confort numérique paramétrée par leurs soins, esclaves ravis d'une dystopie ultralibérale où les consommateurs s'auto-aliènent en se mettant en scène eux-mêmes comme des produits. À l'ombre de cette société du tout visible connecté, des créatures mythiques, métamorphes et insoupçonnables sèment la zizanie. Les furtifs, plus haut niveau du vivant, alliance du végétal et de l'animal, qui auraient, dit-on, réussi à fusionner avec une petite fille, possiblement contagieuse, échappant désormais à tout contrôle, et que le gouvernement voudrait capturer à tout prix. Les furtifs sont l'événement SF de l'année. 15 ans de réflexion, 3 ans d'écriture pour un pavé jaune vénère de romanesque baroque remuant dont les 700 pages caracolent en tête des ventes, accompagné d'un disque de déclamation mis en son par Yann Péchin, le tout publié par un éditeur indépendant, La Volte. Lyonnais installé à Marseille, son auteur, Alain Damasio, 49 ans, arrive le dos lesté d'un énorme sac à dos orange comme revenant d'une longue marche. Et puisqu'il n'a pas de téléphone portable, l'écrivain acclamé de la zone du dehors en 1999 ou de la horde du contrevent en 2004, grand prix de l'imaginaire, 300 000 exemplaires vendus, se déplace en demandant sa route pour trouver l'angle de rue où se cachent les nouveaux studios de Nova, encore mal identifiés par les traceurs de géolocalisation. Comment reprendre le contrôle de nos vies sous surveillance? C'était le sujet principal de notre conversation d'hier, à réécouter en podcast sur nova.fr. Ce soir, nous nous demanderons si Emmanuel Macron est un androïde venu du futur et quelles pourraient être les méthodes d'action adéquates pour les gilets jaunes, auxquels Alain Damasio consacre une nouvelle démente parue au sein du recueil Gilets jaunes pour un nouvel horizon social qui vient de paraître aux éditions Au Diable Vauvert. Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, dès l'infâme, dans la nuit. Bonsoir Alain Damasio.
Bonsoir.
À ma grande surprise, je vous ai entendu dire en interview que vous n'étiez pas un lecteur de science-fiction, vous en lisez très peu. Mais là, vous avez déjà cité une dizaine d'auteurs vivants de science-fiction, pas connus, moins connus que Aldous Huxley ou Orwell ou bien Ray Bradbury.
Ouais, mais parce que en réalité, je lis les. J'aime bien dire ça, mais c'est la vérité malheureusement. En fait, je lis les copains. Tu vois, c'est-à-dire que je lis donc la maison d'édition dans laquelle je suis qui s'appelle La Volte, qui est une maison d'édition très courageuse au sens où elle édite vraiment des auteurs avec une écriture. Très personnel, très singulière et très déployée et qui porte généralement sur les mondes imaginaires, que ce soit SF, fantasy, fantastique. Et dans ces gens-là, il y a des gens que j'adore. Moi, j'ai cité Léon Riche, j'ai cité Sabrina Calvo, mais voilà, je pourrais citer Laurent Clotzer, je pourrais citer Norbert Merjanian, Stéphane Beauverger, Luvan, voilà, Catherine Dufour. Enfin, c'est des gens que je côtoie régulièrement, qui sont des gens passionnants, très intelligents, souvent qui héritent aussi de toute la culture très française de psychologique, sociologique, philosophique, anthropo, c'est historique même pour Catherine Dufour, etc. Donc c'est des gens qui sont passionnants, voilà, à discuter, et dont les livres, je trouve, sont passionnants aussi. Donc ceux-là, je les lis, voilà. Par contre, tu vois, sur la littérature anglo-saxonne, il y a énormément de grands classiques que j'ai pas lus aujourd'hui, tu vois. Comme des gens qui sont considérés comme extraordinaires, que j'ai pas encore lus, comme Ursula Le Guin, ou les Caddicks, j'en ai lu 3, tu vois. J'ai jamais lu Dune, tu vois. J'ai Hyperion, j'ai lu le tome 1, j'ai jamais lu les autres. J'ai jamais lu du Silverberg, j'ai jamais lu du Greg Egan, voilà, et ni du Christopher Priest, ni plein de gens qui sont extrêmement réputés dans le domaine.
Vous êtes en train de décomplexer beaucoup d'auditeurs.
Ouais,
c'est bien.
Mais non, mais c'est de toute façon, c'est pas possible. Il faut dire aux gens, ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une culture ample, exhaustive sur quelques domaines que ce soit. Même si tu te prétends spécialiste du manga ou de la BD franco-belge ou des séries télé de science-fiction, tu n'arriveras jamais à bout de tout ce qui se fait. Et il faut pas aller à bout. Au contraire, il faut prendre des bouts un peu partout et construire ta réalité, ta singularité à partir. Moi, je picore énormément. Tu vois, je fais vraiment du cut-up. Je pique à droite, je pique à gauche. Même philosophiquement, il y a plein de livres où j'ai lu 100 pages seulement, ou la fin, ou seulement un chapitre, ou. Mais ce que j'ai lu, par contre, je l'absorbe, je l'avale, je m'en sers et je l'utilise. Je lis beaucoup d'articles, par exemple, sur l'inspiration techno. J'ai lu énormément un site qui s'appelle Internet Actu, que je recommande absolument, qui est peut-être le site le plus intelligent pour justement analyser les dernières tendances des réseaux, des IA, des chatbots, de la robotique, et sous un angle intelligent, philosophique, extrêmement intéressant. Et c'est Hubert Guilbault qui fait ça et je trouve qu'il le fait magnifiquement. Voilà, des fois je vais prendre un bout, je vais regarder Thinkerview, puis je vais écouter une demi-heure de Bernard Stiegler, tu vois. Et parfois dans cette demi-heure, je vais prendre un concept qui me dit, mais tu vois, et peu importe que je ne l'ai pas compris exhaustivement, que j'ai pas lu tout Stiegler, parce que moi je suis un créateur, donc je vais prendre ce bout-là et je vais créer à partir de ce bout-là. Et parfois, tu sais ce que disait Deleuze, il dit parfois on fait des contresens ou des non-sens ou des faux-sens par rapport à tel ou tel livre, mais il dit dans les beaux livres, tous les contresens sont beaux, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire un contresens sur Stiegler ou même sur Deleuze ou même sur Foucault. Mais la pensée qui délivre est tellement intelligente que de toute façon ça t'a donné des idées qui sont en elles-mêmes intelligentes parce que t'as baigné dans cette intelligence qui porte, quoi. Donc parfois moi peut-être que je fais des contresens sur Deleuze, mais c'est pas très grave au sens où ça m'a donné une idée qui va être riche pour le livre, tu vois. Que ça soit pas dans la doxa deleuzienne absolue, j'ai envie de te dire presque on s'en fout, enfin tu vois. Parce que ce qui compte, c'est effectivement que ça t'aide à penser, que ça mette ta pensée en vie et ça la rende vivante. Et après, même si t'es pas dans la doxa de ce qu'il avait voulu dire, bah ça t'a inspiré et t'as créé quelque chose. Voilà, donc pour moi, c'est très important ça. Ouais, et j'ai renoncé. Pendant très longtemps, j'avais, comme beaucoup de gens, l'espèce de culpabilité de dire je peux pas parler de Foucault si j'ai pas lu tout Foucault, je peux parler de Deleuze si j'ai pas lu tout Deleuze, et Deleuze, j'ai quasiment tout lu. Hein, mais tu vois, je peux pas en parler ou en parler bien parce que je suis pas philosophe, etc. Bah non, c'est pas vrai, quoi, tu vois. À un moment donné, tu peux lire un seul livre ou même un chapitre d'un livre et tu vas t'en servir, l'empoigner. Donc j'essaye plus d'être exhaustif, j'essaye de suivre la ligne que je veux. Et Les Furtifs, par exemple, j'ai extrêmement peu lu pour ce livre. C'est vraiment le livre dans lequel j'ai moins lu. Tu vois, dans La Zone Dehors, j'avais beaucoup lu Foucault, etc. pour le faire. J'avais synthétisé, surveillé, punir. Là, ça a été très modeste, mais parce que voilà, j'avais la direction intérieure et je voulais pas être trop pollué par cette exigence de recherche d'exhaustivité qu'on a ou qu'on essaie de me faire croire qu'on doit avoir pour créer et avancer, quoi.
Au contraire de vos prédécesseurs en science-fiction, vous n'avez pas du tout le fantasme de l'homme couplé à la machine, le cyborg, en fait. Vous, au contraire, Les Furtifs, c'est quasiment le rejet de ça.
Ouais, mais ça, je pense que là, on verra, je fais un pari. Je pense que la science-fiction est en train de quitter vraiment le cyberpunk, est en train de dépasser le cyberpunk. Je pense que le cyberpunk aura été un moment extrêmement important à partir des années 70 jusqu'à maintenant. C'est pas dire que ça va, aucun genre ne disparaît jamais complètement, même le space op. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu ringard et en fait, t'as toujours des renaissances ou des renouveaux du space op qui peuvent être passionnants. Simplement, je pense que cette idée née des années 70, que le couplage de l'être humain avec la technologie va produire une émancipation, va produire quelque chose de punk, de libéré, de subversif, de neuf. A montré vraiment ses limites, c'est-à-dire qu'on a vu que non seulement ça marchait pas en termes de technogrève, c'est très très modeste ce qui se passe, mais surtout que ça produisait beaucoup plus d'aliénation ou beaucoup plus de une dégradation en appauvrissement de l'humain plutôt qu'un empuissantement et une émancipation. Et donc on est en train de basculer, mais parce qu'il y a tout un courant aussi, on mesure pas à quel point la science-fiction est influencée par les sciences humaines, et surtout en France. Voilà, on est de la soft science fiction, c'est-à-dire de la science-fiction de sciences molles, et c'est plutôt ce qui se passe sociologiquement qui nous inspire. Et là, il y a un grand courant très fort de renouement avec le vivant. Il y a des philosophies du vivant qui émergent, des sociologies du vivant qui émergent. On a tout un courant écologiste extrêmement fort, extrêmement intéressant, qui veut en finir avec la modernité comme coupure de avec le vivant et avec cette idée que voilà la nature sera un bloc extérieur à nous. Donc il renoue avec toutes ces dimensions. On le voit énormément dans les ZAD aussi et énormément sur la génération qui vient, je trouve. Et ça, bah forcément, la science-fiction est influencée par ça. Donc les furtifs déjà sont dans ce courant-là, je pense, que moi j'appelle zoopunk pour rigoler ou biopunk, tu vois, c'est-à-dire de dire bah c'est le couplage avec des espèces vivantes, avec la nature qui va redonner cette émancipation qu'on a perdu, que la machine nous a finalement pas apporté, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi le transhumanisme en termes de SF, je trouve que c'est déjà ringard en fait. C'est déjà ça y est, c'est déjà dépassé. C'est pas intéressant en fait. C'est des fausses illusions et pas très très positives. Et puis on a beaucoup fait. Et puis voilà, comme tout genre, ça s'épuise. Il y a eu beaucoup de livres là-dessus. Où on est couplé avec le réseau, on est couplé avec du silicium, on est couplé avec des technogreffes, on est couplé avec des machines, avec des nanorobots, avec tout ce que tu veux. Bon, bah une fois que t'as fait le tour un peu de tout ça, tu fais bon, ok, next quoi, tu vois. Donc, j'ai l'impression que les furtifs s'inscrira dans une espèce de. Après, c'est très instinctif ce que tu as envie de faire. Hein. Mais ma fantasmatique, j'ai du mal à le croire qu'elle soit unique ou. Absolument singulière, parce que moi je suis produit de mon époque aussi, donc ma fantasmatique elle porte forcément aussi des choses qui et c'est pour ça qu'aussi qu'un lectorat va répondre, ou en tout cas qu'un public va émerger d'un livre, c'est que tout d'un coup ça met en résonance des choses qui correspondaient aussi à la fantasmatique des gens, ou en tout cas au point de fuite vers lequel ils se portent naturellement, et toi comme tu es produit de cette époque, ben tu as cristallisé aussi ça, hein.
Quelle musique de science-fiction on pourrait écouter maintenant? Soit une bande
je garde une nostalgie de Vangelis et de Blade Runner, tu vois, de ces morceaux où ça sent quand même vachement le synthé à des moments, mais malgré tout ils arrivent à créer, je trouve, une espèce de mélancolie incroyable, quoi, extrêmement puissante, et qui te permet de t'inscrire vraiment dans le film. Donc il y a ça, moi j'écoutais à l'époque, j'écoutais Jean-Michel Zerr, et c'est marrant parce que Ron Oxygène. Aussi... Oxygène, ouais, tout à fait. Et ça a bercé mon enfance, on avait les vinyles, ma mère écoutait ça, et ça a bercé, quand je dis enfance, c'est-à-dire vraiment le tout début où j'écoutais de la musique, vers 11-12 ans, il y avait David Bowie et il y avait Jean-Michel Jarre. J'allais voir ses concerts à Lyon, c'était assez rigolo, et ça m'a fait rire quand j'ai vu que Ron après avait travaillé avec lui beaucoup plus tard. Bon, c'est très très daté hein, maintenant, mais ça m'a envie d'y réécouter et puis d'être dedans. Et
vous voulez qu'on prenne un bol d'oxygène là ?
Voilà, un bol d'oxygène, ouais.
Nova, Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Alain Damasio, le personnage de Gorner dans votre roman Les Furtifs, on dirait une sorte de produit de synthèse de tous les boys de la Macronie. Quand vous voyez surgir Emmanuel Macron dans votre panoptique d'écrivain avec son storytelling et son allure de genre idéal au sourire d'androïde venu du futur pour nous asservir, est-ce que vous vous dites, avec un mélange de joie perverse et d'inquiétude, « Merde, c'est quoi ce nouveau personnage ?»
Alors c'est marrant parce que au tout début, il y avait effectivement une sorte de jouissance, de se dire « Ah ça y est, on sort des politiciens classiques, etc. » Et effectivement, on en est sorti. Mais très vite, ça fait place à la rage et à une colère extrêmement forte. Et en plus, moi, quelque chose d'extrêmement viscéral au sens où j'ai reconnu immédiatement des profils que j'avais en école de commerce, dans les écoles de commerce que j'ai faites, qui s'appellent les SEC, où j'avais exactement les profils de Macron. Donc vraiment des têtes à claque absolues, avec une morgue impériale, tu vois, et le sentiment que tout peut se gérer de la même façon qu'on gère les entreprises et que le capitalisme est le seul système, tu vois, fiable et enviable. Donc ça m'a très très vite exaspéré, ouais. Maintenant il y a des caractéristiques qui ont été intéressantes et neuves, tu vois, et qui ont été presque drôles, mais effectivement, les furtifs s'inspirent, là, pour le coup, de l'espèce d'hyper froideur, d'absence totale d'empathie, de côté extrêmement robotisé et sans affect d'un Macron, quoi. Tu vois,
ouais,
c'est, ce qui est extraordinaire, c'est, mais les psychanalystes l'ont montré, hein, qu'il y a un narcissisme qui est tellement intense chez des personnages comme ça que la capacité d'empathie avec l'extérieur est quasi nulle, en fait, tu vois. C'est des gens qui ont l'empathie qu'avec eux-mêmes, quoi, tu vois, et donc ils sont incapables de prendre en compte l'altérité, la différence, différentes classes sociales, etc. Ils sont dans un univers mental extrêmement fermé et bouclé sur eux, et ça rend, et du coup c'est ce qu'il y a de plus grave, parce que ces gens-là sont capables, effectivement, aucun gouvernement, aucun politique n'aurait supporté le niveau de répression que Macron a mis en place en toute tranquillité, tu vois. Ça fait 60 ans, enfin je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais eu un niveau de répression tel dans les rues, quoi. Il faut quand même le dire, faut le répéter. Jamais on avait tiré comme ça avec des balles plastiques dans la tête des gens sciemment. Jamais on avait couvert la police aussi exhaustivement jusqu'à enterrer toutes les procédures contre violence. Aucun flic n'a été condamné alors qu'avant c'était. Moi je me souviens, j'étais de l'époque de Malik Houssekine, 86, les lois de Vaquet. Quand Malik Houssekine, dialysé, meurt sous les coups de la police, et Chirac dit, qui était un ancien, philosophe de l'ancienne génération, politique d'ancienne génération, pardon. Dit « Aucune réforme ne mérite la mort d'un homme », tu vois. T'imagines cette phrase dans la bouche de Macron aujourd'hui ? C'est impossible, quoi. Et de fait, ce type-là acclimate l'extrême droite de façon beaucoup plus efficace que n'importe qui l'aurait fait avant. C'est-à-dire que si l'extrême droite arrivait, je vois pas ce qu'elle ferait au niveau policier de plus que ce que la police de Macron est en train de faire. Donc finalement, on est prêt, voilà, on est prêt. Il nous a préparé à l'arrivée de l'extrême droite parce que je vois pas ce qu'ils vont faire de plus, quoi. Demain, s'ils étaient au pouvoir, quoi. Donc le fameux rempart que les castors moraux croyaient qu'on mettait en place, le fameux barrage contre l'extrême droite qu'on mettait en place, c'est l'extrême droite en réalité. C'est lui qui l'acclimate, c'est lui qui la rend, qui nous apprivoise à cette façon de gérer la population et les manifestations et la désobéissance civile, quoi. Donc c'est quand même ultra violent. Voilà, c'est quand même ultra violent et avec en plus une délégitimation de la violence des autres, soi-disant la violence des autres qui consiste juste à casser des vitrines ou à mettre le feu à la devanture du Fouquet, une utilisation de la violence qui comme mot tabou alors que eux-mêmes l'exercent de façon bien plus féroce que ce qui est en face. Donc c'est très 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 c'est très violent et symboliquement et culturellement et physiquement sur le terrain, quoi. Voilà, donc avec énormément de blessés, on le sait, plus de 730 blessés. Enfin bon, c'est les mains arrachées, les yeux borgnés, les mutilations, des choses qui avant il aurait suffi d'une mutilation d'une main ou d'un pied, comme il y a eu à la ZAD et comme il y a eu après, puis il y en avait quand même 5 mains arrachées, pour que tout s'arrête, quoi, tu vois. Qu'ils enlèvent les lanceurs de balles, qu'ils enlèvent les grenades de l'IF-4. N'importe quel gouvernement d'avant, même je pense sous Sarkozy, tu vois, aurait immédiatement cessé d'utiliser ces armes parce qu'il y avait de la part de l'ancienne génération politique une écoute. quand même, c'est des gens qui ont galéré. Je dirais, les Sarkozy, les Hollande, pour accéder au poste de président de la République, ils ont mis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ils ont fait des tonnes de marchés. Et il y a une vraie connaissance du peuple de la part de ces gens-là. Ils se sont coltinés tout ça. Et donc, ils ont une écoute aussi assez intuitive, instinctive de ce qui se passe. Donc, dès qu'ils auraient senti le mouvement des Gilets jaunes, ils auraient reculé, ils auraient pris en compte ce que les
souvenir
gilets
jaunes... de des centaines de milliers de conversations qu'ils ont eues avec les Français.
Bien sûr, mais ça, on ne mesure pas. Mais des centaines de milliers de poignées de main. Un Chirac, je veux dire, un Sarko, un Hollande, ils ont serré les centaines de milliers de poignées de main, quoi. Tu vois, c'est... La France, il la connaît. Un Macron, il la connaît absolument pas. Il a fait toute sa campagne à partir de grands raouts. Il a fait 15 grands raouts. Il est jamais descendu dans le pays réel. Il en a rien à foutre. Il est pas là pour ça. Il est là pour restituer ce que l'oligarchie lui a demandé de faire, quoi, tu vois, et qui a financé évidemment sa campagne et son accession au pouvoir. Donc là, tu fais, bon, ok, donc tu sais que ça ne s'arrêtera pas, tu sais que cette violence ne s'arrêtera pas et qu'il faut maintenant mettre en place des choses à la hauteur de cette violence pour pouvoir essayer d'infléchir. Donc la désobéissance civile, je dirais, pure ne suffit pas, les manifestations pures ne suffisent pas, alors qu'elles sont récurrentes depuis 26 jours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, tu vois,
depuis
il faut
26 semaines.
Oui, 26 semaines, pardon, excuse-moi. Donc voilà, t'es face à un pouvoir qui, effectivement, n'écoute absolument pas, méprise absolument aussi, en plus, ce type de manifestation, et qui oblige à monter d'un cran. Enfin, je pense qu'on va monter d'un cran, ouais.
En réaction, on va dire.
Ah ouais. Je pense qu'on va revoir émerger de l'action directe, parce que ça devient le seul moyen pour, effectivement, faire changer les choses, puisqu'il est abrité pendant 5 ans... derrière cette élection, en plus, complètement biaisée, quoi.
On est plus fort que les stars vêtus des noirs, la peau colorée, on porte l'espoir jusqu'à dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante le soir, on arrache la lune jusqu'à dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance, la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débordement. Le monde demande débordement.
Nova Book Box, Nova te masse la tête avec des mots très doux.
On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune. Jusque dans les étoiles, dans les étoiles.
Sais-tu qui je suis? On s'en bat la schneck. Avec elle, avec lui, je te découpe en steak. Futur végétal, on est des centaines pressés à presser la pastèque. Ouais, c'est déjà la fête. La fin, les aztèques. Futur végétatif, on fait du salsal. Pétrole sniff, mets du gel du cutter sur les paupières. Tape les fesses dans la rue, les doigts en l'air. J'envoie des messages de paix pour le ferry, pour les petits perdus de Bruxelles à Paris. Y a tellement pas de lien, qu'est-ce qui nous retient? De pas manger les autres au lieu de ronger nos freins. Tu vas manger ma joie, boire le santé Sista. Marée de corps arrive sur toi, tu vas manger ma Felicita. Ah, Felicita.
On est plus fort que les stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante les soirs, on arrache la lune. Jusque dans les étoiles, et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande, débordement, débordement. On est plus fort que les stars, vêtus de noir, la peau colorée, on porte l'espoir. Le soir on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles, hey. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement.
Dans Libération, vous avez déclaré à Alain Damasio: j'aurais aimé être le parolier de Rage Against the Machine. Mettons que le groupe soit ok pour une collaboration, quel sujet abordez-vous?
Waouh, il y aurait des trucs fabuleux à faire, ouais, bien sûr. Non, moi j'adorais Fight the War, Fuck the Norm, etc. Tu vois, où il y avait quand même des textes assez puissants. problème du rock, c'est que à des moments, t'es obligé vraiment de simplifier le message, ou en tout cas de trouver une façon de le concaténer de façon super puissante. Moi, j'aurais envie de d'attaquer évidemment la macronerie, quoi, tu vois, et tout ce qu'elle porte, ça c'est évident. Ouais, je pense que ça serait la première attaque là, si je, même si ça intéresserait peut-être pas à la France, tu vois. Non, mais cette espèce de jeu, puis voilà, l'espèce de jusqu'au boutisme extractiviste dans lequel on est, c'est-à-dire de savoir pertinemment qu'on est en train de défoncer la planète et de continuer dans des logiques de croissance, de d'extraction du pétrole, du charbon, du gaz naturel, quand tu vois que le mix énergétique a pas bougé, c'est-à-dire qu'on est toujours 85% des énergies qui viennent du carbone, tu vois, malgré les soi-disant éoliennes, solaires, etc. En réalité, ça n'a pas bougé, si tu regardes, là j'ai lu des livres récemment là-dessus, sur l'effondrement et tout, tu te dis, mais bon Dieu, c'est hallucinant, quoi. Et on sait parfaitement ça, ils savent parfaitement ça, donc ça c'est insupportable d'avoir des gouvernements qui savent parfaitement qu'ils sont en train de détruire complètement les espèces vivantes et les ressources de la planète, et qui le font en toute, tu vois, en toute conscience, quoi. Donc là, ouais, ça mérite, je pense. Là, ça donnerait des trucs assez explosifs. Mais bon, il y a tellement de choses, ouais, qui se pourraient.
Quel autre groupe que Rage, quel autre musicien incarne aujourd'hui dans vos oreilles la rage contre la machine, la colère contre le système?
Et ben, il y a quelqu'un qui est très détesté par le milieu, que moi j'adore, qui est Damien Cèze. Qui dans ce texte, alors je te parle de ces textes, hein, moi j'ai eu suffisamment de témoignages pour savoir que bon, apparemment le type humainement est pas ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de recommandable, tu vois, mais j'ai envie de te dire, à la guerre on s'en fout, quoi, tu vois, parce que les gens sont multiples et parfois un artiste a besoin d'être strictement odieux dans son quotidien pour pouvoir sortir une rage qui lui est spécifique, et il faut savoir faire le distinguo. Il a des albums qui sont excellents. Je pense à J'accuse, par exemple, qu'il a sorti, qui est un très très grand album pour moi. Mais même ceux d'avant, le triple album qu'il avait fait, Paris Varsovie, etc. La partie Paris était excellente. Il arrive. Il y a quelque chose de et c'est pas un hasard, quoi. Je pense que Damien Cèze est traversé par des enjeux extrêmement violent par rapport à la consommation, c'est-à-dire qu'il en est pas sorti ou il s'en est pas débarrassé, donc ça reste un enjeu central, ventral pour lui, tripal, et des enjeux aussi sexuels qui sont extrêmement puissants aussi en lui, qui fait que quand il parle de ces sujets-là, il y a un degré de véracité, de violence, mais de violence exercée contre lui-même, contre ces tendances en lui qu'il n'arrive pas non plus à totalement dépasser et qu'il voit aussi chez les autres. C'est encore un des rares qui est capable de faire sentir le dégoût de la société de consommation, du fric, du capitalisme dans ses textes. Plus personne n'arrive à faire ça. Enfin, je trouve, hein, en tout cas, c'est le seul où tu sens que ça vibre à l'intérieur de lui comme un véritable enjeu. Et du coup, ça donne une puissance à ces textes qui est vraiment... Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, j'aime
une
beaucoup.
Chanson en particulier
Le J'accuse. Et là, tu vois, ça te donne l'espèce de force, de goût de te battre, quoi. Vraiment, c'est... Et moi, des fois, je me dis, peu importe ce qu'est le mec, quoi, mais s'il donne cette capacité de violence intérieure, d'explosivité, de rage, putain, on a vraiment besoin de ça, quoi.
Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la teinte pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clos, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer, je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées, les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi, à se faire mettre, à se faire baiser sur un super enfanté, des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite, mais ces connards ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir, des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation, des grippes porcines sur des cochons, oh non l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton, oh non l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser ses petits sous,
pas des raisons pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé, faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présent.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours avec Alain Damasio. J'ai encore quelques questions à vous poser dans la Nova Bookbox. Cette émission existe depuis bientôt 8 ans. Et à chaque fois que je sollicite les auditeurs pour leur demander ce qu'ils aimeraient entendre comme lecture, comme extrait de texte, ou quand je leur demande de m'envoyer des passages de livres qui comptent beaucoup pour eux, il y a deux noms qui reviennent le plus souvent, c'est Bukowski et vous. J'ai donc lancé il y a une dizaine de jours un appel à ma horde en leur demandant si par hasard ils avaient des questions à vous poser. Donc j'ai fait une sélection et on va commencer avec une question ouverte posée par The Marion Cous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?
Waouh ! Ah, j'aime ça quoi. J'ai envie de répondre. On a suivi notre pente naturelle, mais en descendant au lieu de la suivre en montant. C'est-à-dire qu'on a cédé aux conforteresses, aux technococons, à l'immense facilité et fluidité qu'apportent les technologies. Et donc, on a cédé au design de la dépendance, à l'économie de l'attention. Et on mérite ce qui nous arrive au sens où on a empoigné toutes les armes de l'auto-aliénation, ce fameux vice du self-serve, le self-service, avec ce jeu de mots un peu délirant que j'ai posé. C'est-à-dire qu'on a cédé à ça. On a préféré privilégier une espèce de commodité, de fluidité, de facilité de vivre, de loi du moindre effort, plutôt que de défendre la liberté comme le premier de tous nos champs, de tous nos biens. Donc c'est ça qu'on a fait pour mériter ça.
Une question de Tom, all inclusive, artiste et furtif, c'est possible ?
Ah, c'est une belle question, et celle-là, je me la prends dans la gueule en ce moment, avec en plus toute la sortie du livre, l'espèce de tournée qu'on fait, et de promotion, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Très difficile, et moi je souffre, ça y est, du moment où tu commences à être reconnu à des endroits où t'es là, en train, au rayon fruits et légumes du Leclerc, et des gens viennent te dire, ah, vous êtes, tu vois, ou à Décathlon, des trucs comme ça. Enfin, tu te dis, mais putain...
Vous venez de citer deux marques.
Ouais, t'as vu. Bon, on va couper tout ça. Donc, à l'hypermarché, quand vous êtes dans un rayon fruits et légumes de l'hypermarché.
Ou dans un magasin de vêtements sportifs.
Des vêtements sportifs. Non, mais c'est-à-dire que ce moment où... Moi, pendant toute ma vie jusqu'à maintenant, on va dire vraiment, parce que j'étais pas du tout reconnu avant, j'ai un physique totalement passe-partout, très banal. Et c'était une grande chance, c'est-à-dire que les gens me regardent pas, tu vois, j'arrive à être très fluide et à circuler dans des espaces, et donc je peux m'arrêter, regarder les gens. Et moi, ça fait partie vraiment de mon envie, mon boulot, de ce que j'aime faire. Donc je me pose dans le métro, je me pose sur un banc et je regarde comment les gens vivent, et ça m'inspire et ça m'aide à comprendre aussi ce monde. Et quand tu deviens un tout petit peu connu, t'as des moments où tu vas lever la tête, tu vas être sur ton banc et quelqu'un va venir te voir ou va te dire, ou va se retourner, il va te dire. Et ça, c'est ultra. En réalité, désagréable et chiant, parce que je peux plus être cette espèce de lame qui traverse la ville et qui découpe les espaces que j'ai envie de découper ou qui. Donc, tu crois que c'est bien, tu vois, tu te dis ouais, en fait, c'est super, c'est. Alors, les premières fois, ça te fait plaisir, ton ego, ton narcissisme sont comblés. Et après, tu commences à flipper. Donc, artiste et furtif, bah, pour l'instant, non, j'y arrive pas.
Une question de Mariam 300. C'est la question qui revient le plus souvent dans celle que j'ai pu recueillir. À quand l'adaptation sur grand écran ou petit écran de La Horde du Contrevent ? Même question avec La Zone du Dehors.
Alors, La Horde, il y avait eu le fameux film d'animation qu'on avait essayé de faire avec Forge Animation. Donc, la société, malheureusement, a coulé, a été liquidée. J'ai même racheté mes propres droits. Mais ça y est, c'est reparti. On est en cours de signature avec une productrice. Que j'aime beaucoup et qui et ça va se faire je pense en série télé type peut-être Game of Thrones ou en tout cas en série de films.
Mais pas d'animation, série vraiment.
Ah ouais, avec comédien réel. Et donc là, ça risque d'être génial. On cherche le réalisateur, on rêve de Denis Villeneuve, hein, carrément, on peut le dire, on rêve de lui.
Denis, tu nous écoutes ?
Voilà, c'est ça. En plus, comme il est francophone, il pourrait le lire en français.
Et mais... il vient de terminer Dune, donc du coup,
Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a réussi à résister à la machine hollywoodienne à de nombreuses reprises. Il est capable de garder sa singularité dans une machine écrasante. Et j'adore ce qu'il fait. Donc, voilà, un des grands rêves, ça serait qu'il veuille bien jeter un œil distrait sur la horde. Donc ça serait en cours. La zone du dehors, on a fait n'importe quoi avec les droits, donc pour l'instant ça flotte quelque part à Londres, et je sais pas ce qui se passe du tout, donc là je suis un peu inquiet quand même. et après il y aura les furtifs, hein, je pense.
Vous avez déjà des propositions pour les furtifs?
On a déjà beaucoup de propositions
De cinéastes français, de boîtes de production français,
de boîtes de production, ouais.
Série ou cinéma?
Je sais pas, parce que je veux pas répondre pour l'instant. Non, je veux pas répondre parce que c'est trop tôt, et parce que je trouve que les gens qui te sollicitent alors que le livre est même pas sorti, c'est vraiment à la limite du vampirisme, donc je trouve ça excessif. J'ai envie de prendre le temps. L'enjeu c'est pas tellement la boîte de production, l'enjeu c'est quel réalisateur. Voilà. Moi je fais confiance à des artistes. Voilà. Donc si le réalisateur me plaît, là on avait parlé avec Yann Kounen, donc ça serait pourquoi pas Yann. Voilà, c'est des gens en qui j'ai confiance, dont j'ai confiance dans leur talent, dans leurs compétences. Dans, tu vois, c'est pas la boîte de prod qui va déterminer ce qui mérite d'être fait. C'est l'artiste avec qui tu vas avoir un vrai lien qui va déterminer ce que tu peux faire.
Question de Fab Quest. Quelle drogue consommes-tu ?
Je suis vraiment extrêmement dans la banalité, puisque voilà, c'est essentiellement du vin blanc. Vin blanc, bière, alcool, voilà, et encore modestement, plus ça va malheureusement, ça me détruit le cerveau. Moi j'ai une nature épileptique, donc je suis très sensible à l'attaque alcoolique après sur les neurones, donc c'est tout. Mais moi j'adore ce que Deleuze dit là-dessus, se saouler à l'eau claire, quoi, c'est être capable de se saouler avec des choses extrêmement, extrêmement simples. On n'a pas besoin des drogues en réalité. Comme disait Deleuze, ce qu'on fait sous drogue souvent ne tient pas assez debout. C'est un manque de structure. Donc ça peut être super pour des inspirations, mais après, j'y crois pas trop en fait.
Question de As D. Rowe. Est-ce que la connexion USB représente le futur des rapports sexuels?
Elles sont excellentes, toutes ces questions.
je remercie d'ailleurs les auditeurs, il en reste encore une, mais vraiment merci pour tout ça.
C'est super intéressant, parce que il faudrait parler de la pornographie en réalité pour bien parler de ça. C'est de dire que c'est marrant, parce que ce double sens audio-visuel, c'est-à-dire juste la vision, le spéculaire, l'optique et le son, suffisent souvent à mimer ou à symboliser ou à incarner un rapport sexuel et à produire une jouissance pour les... Enfin, je parle de la masturbation, etc. Donc ce qui est fou, c'est que alors que faire l'amour est un acte qui utilise énormément, enfin qui sollicite énormément le goût, le toucher, des dimensions de thermique, des dimensions extrêmement extrêmement physiques, extrêmement belles, on a réussi à en faire quelque chose de très très lisse, de très très distant, de très spéculaire à travers le... Donc pourquoi pas la clé USB, surtout avec les gants à mémoire de forme, avec des surpeaux, tu vois, qui permettraient, tu pourrais éprouver le... Et puis tu te dis, avec ce que font les Japonais, avec maintenant toute la mode des poupées, il y a une mode incroyable. Les Love Dolls qui se développent énormément, où les gens prennent chez eux des poupées qui sont magnifiques et qu'ils installent sur leurs chaises, dans leurs lits, etc. Il y a tout un marché qui se déploie. T'as l'impression que, de toute façon, ça va avec le technococon, quoi. Plus le technococon se déploie, plus la sexualité devient onaniste, devient elle-même individualisée, personnalisée. Bah, qu'est-ce que c'est une sexualité personnalisée? C'est la masturbation, c'est l'onanisme, ou alors c'est des espèces de faux rapports médiés par une technologie, alors que, bon, bah voilà, là, on sait que la grande beauté de l'amour, c'est la confrontation physique, quoi. Quel autre, moi je le dis parfois, mais comment dans un monde extrêmement lisse, où les souris sont lisses, les claviers sont lisses, les tables sont lisses, je veux dire, de toucher quelque chose qui te donne du plaisir, il y a très peu de choses qui le font aujourd'hui, tu vois. Tu peux toucher l'écorce d'un arbre, tu peux toucher une femme, tu peux toucher un homme, voilà, mais il y a très peu de choses. Donc putain, gardons cette beauté, cette grandeur sur ce sens du toucher qui était essentiel avant dans l'espèce humaine, quoi.
Dernière question, de nouveau, qui provient de nouveau de Tom All Inclusive. À quand un livre philosophique musical pour enfants avec Rhône?
Ah, pas mal. Avec Ron, on a le projet, on a vraiment l'envie de faire un album concept, mais vraiment un album narratif, c'est-à-dire vraiment avec les grands modèles comme L'homme à la tête de chou, Melody Nelson, tu vois, par exemple, de c'est-à-dire qu'un album capable de te raconter vraiment quelque chose et te laisser dans un univers. Donc ça, j'adorerais qu'on arrive à le faire et qu'on le déploie. J'espère que dans les prochaines années, on va pouvoir s'y coller. Et après, pourquoi pas, effectivement, dans la dimension pour enfants, parce que je pense que Ron et moi, on a cette chance d'avoir gardé une part enfantine très très grande. On a protégé cette part enfantine en nous, ce qui peut nous rendre fragiles, parce que c'est compliqué de la garder à l'âge adulte, quoi. Sur cette phrase de Brel qui est géniale, il a fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte, c'est-à-dire sous-entendu pour garder cette part d'enfance jusqu'à très très un âge très avancé. Donc pourquoi pas, ouais, revenir à quelque chose d'onirique, d'enfantin, et qui porterait des dimensions spirituelles, philosophiques, parce que moi je peux pas écrire sans porter, avoir envie de porter en tout cas ces dimensions-là. C'est pas bête ce qu'il dit. Bon, je vais en parler à Ron alors.
Voilà des questions à moi maintenant. Vous travaillez sur une série télé qui a pour sujet la décroissance?
Ouais, c'est en cours, je sais pas, c'est très difficile à savoir si je vais pouvoir le porter, aller au bout. L'idée, oui, ça c'est un monde en 2400, décroissant, low-tech, après que la Terre a réussi à s'entretuer à peu près exhaustivement et que c'est l'Antarctique qui a fondu et qui porte les derniers survivants humains. Et là, ils ont développé toute une société, effectivement, décroissante. Enfin, c'est même pas décroissante parce qu'il n'y a plus de croissance, mais en tout cas, c'est utilisant de façon intelligente les technologies, hein, justement, avec une sorte de frugalité technologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à la bougie, mais on utilise les technologies de façon à taille humaine et de façon sobre. Voilà, donc on travaille là-dessus. Voilà, et avec des migrants temporels qui arriveraient et qui pourraient accepter ou refuser. Mais j'ai du mal encore à la développer, j'ai du mal, je suis pas encore complètement dedans, donc je vais voir. Parfois tu as un très beau concept et finalement tu arrives pas à le déployer. Donc pour l'instant, je suis un peu bloqué là-dessus, ouais.
Faire de la littérature n'est pas un geste social.
Et encore ça se discute.
Alain Damasio, est-ce que je peux vous demander pour terminer de nous lire un passage de cette nouvelle inédite que vous venez de publier à l'intérieur d'un recueil sorti aux éditions Diable Vauvert intitulé « Gilets jaunes pour un nouvel horizon social » qui regroupe des textes signés notamment Nicolas Mathieu, Annie Ernaux, Denis Robert ou Christophe Siebert sur ce mouvement social.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
Je vais vous tasser la vérité d'un shot. Aucune lutte ne se gagne si tu secoues pas ceux qui te la font à l'envers. Les énarcotrafiquants bien abrités dans leur tour en verre miroir, derrière leur mur de keuf, dans leur palais sécurisé, calé sur leur martelas de fric. Si tu vas pas les chercher, ils peuvent continuer pépouf à siphonner le produit de ton taf, à recycler ta sueur dans des paradis fiscaux et à t'emboucaner le groin avec leur prétendue crise. Si tu les sors pas, leur conforteresse. Si la violence qu'ils t'imposent de si loin, de si haut à travers leur écran, leur budget, leur holding, leur sbire, leur montage, cette putain de violence à 12 bandes systémique qui tout en bas devient foutrement concrète et physique pour toi, à te mutiler la main ou la joie, la fierté et le bonheur de tes gosses, le bien vivre et l'espoir. Si cette violence, à un moment ou à un autre, elle leur revient pas dans le bide et dans la face, aussi palpable et bourre-pif que pour nous, tu crois quoi ? Qu'ils vont changer le système pour tes beaux yeux jaunes ? Macron et sa clique à l'Élysée, comme en déplacement, étant aussi intouchable que n'importe quel dictateur tropical tanké dans sa colonne de blindés, ben on a décidé d'attaquer localement les 308 députés de la République en moche, pour qu'ils comprennent ce que ça signifie une existence précaire. Là encore, il n'y a pas eu de doctrine globale, ni de consigne, encore moins de conspiration d'un chef secret braillant ses ordres à une masse aveuglée par la rage. Plutôt, une forme de justice immanente remontant des circonscriptions et inventée par nous autres, les déterres, pour déboîter ceux qui, dans la bétaillère de l'hémicycle, votent en bêlant l'avilissement de notre éducation nationale, la vente en lot de la SNCF, la liquidation des hôpitaux publics, la loi travail, ou l'amendement « Je pollue, je t'emmerde ». Ceux qui pensent que chômage et retraite, ça se gère à coups de miettes. Ça a pris cuche de forme, selon les feelings, les groupes, les trouvailles. Parfois, ce sont juste les bagnoles des élus qui ont cramé leur baraque, repeinte rouge sang, pas vraiment, avec soin. Leur petit four arrosé au diesel dans leur raout d'entreprise. Parfois, les mecs ont été tagués de haut en bas, visage compris, en rentrant chez eux, avec des mots d'amour comme justice, ISF, RIC ou RAC. CAC plus LBD40. Parfois, ils ont passé 24 heures en garde à mu, dans un service d'urgence, dans un entrepôt Amazon à faire piqueur, river un poteau dans une usine de poulet, sur une chaise, dans une classe bordélisée, 35 élèves dans un lycée technique, au front des classes. On leur a fait rencontrer les familles des suicidés d'Orange, des virés de partout, des mères célibatues au RSA dans des taudis de Marseille. Histoire qu'ils pigent, qu'ils intègrent, qu'il change peut-être, qu'il mue. Que ça leur rentre par leur corps pour faire sens dans leur tête. Et en parallèle, ben on a attaqué côté milliardaire. Patron féroce, vampire ultime. On est allé voir les potes de Macron, quoi. Les Arnaud, les Niel, Pinault, Dassault, Drahi, Bolloré et Bettencourt, Wertheimer ou Beignet. Ceux qui pèsent un modeste 262 milliards d'euros à 10 belus, une paille. À peine 11 millions d'années d'un salarié à plein temps payé au SMIC, les charges, la formation et le poste de travail compris. Allez, de quoi diviser le chômage par deux sur un quinquennat ? Voilà, 10 gus. Eux, c'était plus difficile de les choper. On a quand même réussi à en alpaguer 3. Le premier... On l'a lâché en slip au fin fond d'une forêt du Cantal. Ouais. Il a erré 3 jours en broutant des champignons avant d'atteindre une ferme. Le second, un sportif des start-up, on l'a droppé dans l'Atlantique, à 5 km des côtes bretonnes, avec une balise au poignet, au cas où il aurait le mauvais goût de se noyer. Le troisième, on l'a laissé dans une grotte du Vercors à moisir 5 jours et à laper l'eau des stalactites. Ah, attention, attention, on n'est pas des salauds, hein, quand même. On leur a parlé, hein. On est allé discuter avec eux, politique et justice sociale, économie coopérative et liberté de la presse, pour leur tenir compagnie. C'est marrant, ils nous ont paru assez ouverts au bout de quelques heures, presque attachants, je dois dire. Je sais pas si ça les a changés, je crois pas, c'est pas le genre. Leurs proches les ont récupérés vénères. Par contre, ce sont les autres patrons que ça a fait réfléchir. Tiens, surtout quand on est allé chercher des directeurs moins haut placés, des actionnaires discrets, des idiocrates bouffons, qui ne s'y attendaient pas du tout. Quand toute la petite clique des élites de Paname a compris qu'elle pourrait bien être dans le prochain commando d'éducation populaire, qui a walpé dans un canot pneumatique blindé de migrants, qui a bouffé 10 jours du maïs OGM, qui dans un squat a compté les cloportes une petite semaine vegan. Terroriste, terroriste! Ah, les gros mots dans la presse tout de suite. En vérité, ça a fait flipper que les ultra-richards, les autres, nous autres, le peuple, les 99,9%, on a plutôt bien rigolé, on a vite senti à la façon dont le MEDEF a commencé à lâcher salement du lest dans la panique que ça avait marché. Quant à la République en mâche, bah leur salade, ma foi, ils ont plus trop le goût de les réassaisonner, si bien que le taux de recandidature aux élections a été assez faiblard, faut le dire. Lassitude du pouvoir, sans doute. Il s'était tellement défoncé pour remonter le pays aussi.
Putain, où sont mes lunettes ? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi ?
Et pour terminer cet entretien à la Damasio, je ne vais pas vous poser la question que Sahar pose à ses élèves. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment libre ? Parce qu'en fait, je le comprends. Vous êtes libre dans toutes les entreprises que vous menez artistiquement. Et en tant que citoyen, j'ai plutôt vous poser la question dystopique. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment emprisonné, vraiment aliéné?
Ouais, c'est super intéressant. C'est bizarre, la réponse va être bizarre. C'était à Lyon, lors d'un festival de science-fiction qui s'appelle Les Intergalactiques. Je venais de faire une conférence comme ça d'une heure. Et je suis sorti, et comme je suis quelqu'un de très accessible et que je veux pas justement murer ou barrer les gens, je reste toujours très disponible à discuter comme ça. Il y a une personne qui est venue me voir, qui a commencé à me parler, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et je voulais juste sortir de la salle et aller boire un coup, tu vois, au bar. Et j'ai eu l'impression de vraiment étouffer, quoi, pour le... Et là, je me suis dit, c'est marrant, j'ai pas su non plus me protéger. Voilà, en voulant et en essayant toujours d'être dans une sorte de proximité très grande et en cassant tous ces rapports hiérarchiques ou de starification ou toutes ces conneries qu'on peut mettre pour justement se protéger, je me suis retrouvé à un moment pris à la gorge. Vraiment, là j'avais vraiment envie de pousser les gens et de leur dire putain, mais ok, j'y arrive plus. Voilà, j'étais crevé, j'avais fait des tas de trucs, j'ai envie de dire j'y arrive plus, voilà. Et là j'ai senti un espèce, et c'est con parce que c'est des gens qui adorent mon boulot, qui avec qui j'aurais énormément de plaisir à discuter dans un autre cadre, mais c'est le moment où tu sais pas. Et je crois que la liberté c'est aussi ça, c'est le moment d'être capable de se protéger à certains moments. Et donc là c'est ce qui me vient, tu vois, c'est très con, ça fait très très connard, mais voilà, c'est le moment où j'ai ressenti ça, ouais. C'est bizarre.
Eh bien, je vous libère.
Merci.
Merci beaucoup, Alain Damasio. Il est temps, chères auditrices, chers auditeurs, de disparaître des radars auditifs. Alain Damasio sera le 4 juillet à la Maison de la Poésie de Paris pour une lecture musicale de son roman Les Furtifs, en compagnie du guitariste Yann Péchin. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabot, avec l'aide de Lucie Lossel et d'Adèle Caglar. Programmation musicale, Mickaël Lio. Récolte des questions aux auditeurs, Rémi Benchebra. On se retrouve dès lundi, dès 21h, pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne nuit, bon week-end. Et à lundi.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.